Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Avant de prêcher, nous nous recueillons à prier des prières d'intercession lues par le prédicateur. Ces prières font partie des grandes réunions d'été des croyants et sont intégrées au programme à plusieurs reprises au cours de la réunion. Les prières d'intercession portent principalement sur les différentes situations difficiles que traversèrent les gens dans leur vie. Parfois, les prières d'intercession comportent également un remerciement. La Bible montre que les chrétiens ont toujours prié les uns pour les autres et pour les affaires communes. Paul a notamment exhorté à prier pour les gouvernants afin que la bénédiction de Dieu se porte sur tout le peuple. Voir 1 Épître pour Timothée, chapitre 1, versets 1 et 2. Les prières d'intercession sont un reflet de leur temps. Elles mettent en lumière des sujets qui, en ce moment même, sont source de chagrin et de malheur pour les uns. De nombreux visiteurs de la réunion trouvent ces prières émouvantes. La détresse d'un prochain inconnu nous interpelle et nous rappelle que nous ne pouvons pas savoir quel fardeau portent en eux les personnes que nous rencontrons. Parfois, le sujet de la prière touche profondément l'auditeur et lui fait prendre conscience que d'autres vivent également sous le poids du même chagrin ou de la même détresse. La prière d'intercession est une manière de se soucier de son prochain et de prendre soin de lui. De nombreuses personnes ayant traversé des moments difficiles ont raconté à quel point elles avaient eu le sentiment que ces prières d'intercession les avaient soutenues. Le simple fait de savoir que d'autres prient pour moi peut être une source de réconfort au milieu des épreuves. La prière contient toujours un espoir qui repose sur le fait que Dieu connaît chaque être humain et les étapes de sa vie. Dieu Tout-Puissant a le pouvoir et la force d'agir pour le bien de celui qui lui demande de l'aide, et en particulier pour le bien de son âme immortelle. Nous prions. Dieu Saint, notre cher Père Céleste, nous avons confiance en toi. Tu entends nos prières. Accueille dans tes bras ceux qui ont demandé cette prière d'intercession ainsi que leurs proches et réconforte-les dans leur détresse. Écoute-nous au nom de notre Sauveur Jésus-Christ. Amen. Le prêche commencera dans un instant. Pour commencer le prêche, je vais lire de l'Évangile de Matthieu, de la chapitre 4, du premier verset jusqu'à 11. Puis Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'approcha et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces prières deviennent des pains. » Jésus répondit, « Il est écrit, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Le diable le transporta alors dans la ville sainte, le plaça au sommet du temple et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas. » En effet, il est écrit, « Il donnera des ordres à ses anges, à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Jésus lui dit, « Il est aussi écrit, « Tu ne provoqueras pas le Seigneur ton Dieu. » Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Elle lui dit, je te donnerai tout cela si tu te prosternes pour m'adorer. Jésus lui a dit alors, retire-toi, Satan. En effet, il est écrit, c'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras et c'est lui seul que te servira. Alors le diable le laissa, et voici que les anges s'approchèrent de Jésus et le servirent. Amen. Cet extrait de la Bible est bien connu beaucoup entre nous et il parle des tentations à qui le diable a mis Jésus. Jésus a gagné les tentations du diable. Qu'est-ce qui est ce diable? Jésus a dit le nom Satan et il a dit à Satan qu'il doit partir. Aux langues originales, l'hébreu et grec, on décrit le diable par les noms qui pourraient signifier adversaire ou mentor. Celui qui sème la discorde. On parle parfois de lui comme d'un accusateur qui nous accuse, nous, les humains. C'est l'adversaire de Dieu que Dieu a chassé de sa présence. L'ennemi de l'âme s'oppose à Dieu et haït les hommes. Dieu est en train d'égarer l'homme créé par Dieu, que Dieu aime. Ces dernières années, aussi ici en Finlande, nous avons pu lire des titres d'actualité sur les horreurs de la guerre. Il y a un ennemi dans la guerre. Et comme je l'ai déjà mentionné, le diable est lui aussi appelé l'ennemi de l'âme. Dans notre prière de notre Père, nous demandons Dieu que ne nous soumet pas à la tentation. Luther enseigne dans son catéchisme à propos de cette demande que Dieu ne tente certes personne. Dans la prière, nous lui demandons la protection et garder afin que ni Satan, ni le monde, ni notre propre moi égoïste ne nous trahissent et nous conduisent vers une fausse foi. On parle parfois aussi d'un ennemi triple. En guerre, nous sommes contre l'ennemi de l'âme, le monde et notre propre chair. Comment ce diable agit-il donc exactement? Dans mon ancien poste de directeur, il m'arrivait parfois, lors des soirées de questions-réponses organisées par les jeunes, de tomber sur une question posée par un jeune ou une demande de conseil disant qu'ils avaient peur de devoir un jour faire face au diable. Souvent, nous écoutons pendant les voyages en voiture des histoires, des histoires audio et il y a quelques années que nous avons découvert une pièce radiophonique. Avec des nouvelles de Samuel et Paula Harjo. Et le lecteur de cette pièce savait très bien, habile dans l'utilisation de sa voix et d'écrire ces événements. On y a trouvé des descriptions assez effrayantes de l'ennemi de l'âme. J'ai essayé de consoler des jeunes. Que le diable ne viendra sans doute pas à nous en cette forme effrayante sous laquelle et il parfois représenté, par exemple, dans les œuvres d'art. Imaginez un peu s'il venait vers nous sous cette apparence et nous demandait, voulez-vous venir avec moi au centre commercial? Peu de gens auraient envie de partir n'importe où avec un type qui ressemble à ça. Alors, comment s'est-il vraiment? Pierre nous met en garde dans sa lettre, le garder l'esprit éveillé et de veiller. Votre adversaire, le diable, qui rôde comme un lion rugissant, cherchant qu'il pourrait dévorer. Pierre n'a toutefois pas dit que nous ne devions pas avoir peur. Jésus, quant à lui, enseigne que même face aux événements de la fin du monde, il dit, n'ayez pas peur. D'ailleurs, le message des anges à Noël et au tombeau à Pâques était similaire. N'ayez pas peur. Nous n'avons pas besoin d'avoir peur. Une chose est quand même sûre, que l'ennemi de l'âme est rusé et dangereux. C'est aussi dans le cas des tentations qu'il a soumis au Jésus. De même, le récit de la façon dont le premier couple humain, Adam et Ève, sont tombés au péché. La description qu'en fait le livre de la Genèse, la manière dont le serpent a incité le premier couple humain à pécher. Ici, dans la réunion d'été, vous êtes nombreux, les enfants, vous êtes aussi sous la tente. Levez la main, les enfants, qui a déjà vu un serpent? Il y a pas mal de mains qui se lèvent. Si l'on comptait aussi les adultes, il y en aurait sûrement encore plus. Mais comment est l'animal, le serpent? Il peut faire peur, n'est-ce pas? Il est difficile à repérer quand il est allongé sur le sol et même s'il rampe. Il peut être difficile à voir. Ils sont les couleurs et les motifs, du moins, au moins ici en Finlande. Parfois, j'ai dit que, comme le serpent s'est glissé dans le paradis, l'ennemi de l'âme se glisse aussi dans nos pensées. Et il commence à murmurer de la même manière qu'il s'est mis à parler à Ève. Il remet en question la parole de Dieu ainsi que ses conseils et ses instructions qui protègent la vie. L'ennemi de l'âme transforme le mal et bien et le mal en bien et le bien en mal. Il renverse la situation. Le serpent s'adressa à Ève en ces termes. Dieu a-t-il vraiment dit que vous ne deviez manger d'aucun arbre du jardin? Ce message du serpent était très séduisant et en même temps c'était une mensonge. L'ennemi de l'âme sait bien comment les choses se passent et il connaît la parole de Dieu, comme le montre d'ailleurs ses tentations de Jésus. Il sait s'en servir contre les hommes. Cette question du serpent ne vous semble pas très familière aussi à notre époque. Dans les médias, on parle très souvent des croyants sous l'ange de tout ce qui nous est interdit et de tout ce que nous n'avons pas le droit de faire. Parfois, nous pouvons entendre d'autres personnes nous poser ces questions et parfois, il s'agit d'une interrogation sincèrement étonnée. Pourquoi vous n'avez pas le droit de faire ça? Et parfois, c'est plutôt moqueur. Vous n'avez pas donc pas le droit de vous amuser du tout. Cette question de l'ennemi de l'âme nous est pourtant familière. Il peut nous tenter et nous placer face à une telle impossibilité. Au cours de cette semaine de la réunion, j'ai lu un article qui parlait de notre communauté qui affirmait que les croyants enseignent que l'homosexualité est un péché. Mais ce n'est pas ce que nous enseignons. Aucune caractéristique n'est un péché. Aucune caractéristique humaine. C'est ce que nous en faisons qui compte et qui détermine ce qui est bien ou ce qui est mal. La Bible non plus n'enseigne pas que l'homosexualité soit un péché. Mais nous sommes responsables de nos actes. Dieu a-t-il vraiment dit cela? Nous, c'est très familière question. Les tentations et les pièges que l'ennemi de l'âme a tendus à Jésus montrent bien qu'il connaît parfaitement nos faiblesses. Et il s'est frappé précisément là où nous sommes le plus faibles. On raconte que Jésus, après son baptême, fut amené par l'Esprit dans le désert où il jeûna pendant 40 jours, et ensuite l'ennemi des âmes est approché de lui alors qu'il avait faim. Le diable vient dire à Jésus qu'il avait faim. On dit que c'est une tentation de pain. Le diable veut nous faire douter de notre foi et de la providence de Dieu. Cette première tentation par laquelle l'ennemi des âmes a tenté Jésus est appelée la tentation du pain. Elle est familière à beaucoup de nous. Aussi, aujourd'hui, on peut nous tenter. Si nous avons assez d'argent, ou est-ce que Dieu peut nous garder? C'est une grande question aussi si on peut partir dans la grande réunion d'été à cause de l'argent ou de autre raison. L'ennemi de l'âme cherche à nous accabler par toutes sortes de choses, à semer des doutes. La réponse de Jésus à ce tentateur m'a semblé réconfortante. Lui aussi a répondu au tentateur par la parole de Dieu écrite. Il est écrit, l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Cela nous fortifie au milieu des tentations et nous aide à parcourir le chemin de la vie. Jésus également enseigne, regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Ils ne ramassent pas dans les greniers. Et pourtant, votre Père céleste les nourrit. Et vous valez bien plus que les oiseaux. Qu'est-ce que cela signifie? Devons-nous donc nous soucier de rien? Jésus ne veut pas dire que nous n'avons pas besoin de nourriture terrestre, de moyens, de subsistance ni des soins. Il connaît tous nos besoins et il veut aussi nous aider. Mais il nous rappelle ce qui est le plus important de tout. Jésus a dit, « Ne vous inquiétez donc pas de ce que vous mangerez ou boirez, ni de quoi vous vous habillez. » Ce sont là les choses que recherchent des païens. Le Père Céleste sait bien que vous avez besoin de tout cela. Recherchez avant tout le royaume de Dieu et sa volonté, et tout cela vous sera donné par surcroît. Nous pouvons compter que parmi les soucis et sur le chemin de foi, le Père Céleste nous garde et il nous nourrit par sa parole. Lorsque Eva répondit au serpent, elle ne parlait pas seulement de l'arbre situé au milieu du paradis dont Dieu avait interdit de manger pour que nous ne mourions pas. Le serpent tentait aussi Eve. Vous ne mourrez pas. Dieu sait que dès que vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous deviendrez comme Dieu, et que vous connaîtrez ainsi tout le bien et le mal. Ce n'est pas pour rien qu'on dit que l'ennemi de l'âme est un menteur depuis le commencement. Dès Eve, il a commencé à paraître que le fruit de l'arbre défendu était justement meilleur que tous les autres fruits. Tous les mises en garde et tous les conseils de Dieu sont oubliés. Puis Ève prend ce fruit et donne également à Adam, et Adam mange lui-même le fruit de l'arbre défendu. Ce phénomène ne nous est-il pas familier à nous aussi qui sommes émerveillés par les enfants de notre époque? Que quand on fait quelque chose ensemble, cela peut arriver que la responsabilité semble en quelque sorte diminuer. On peut avoir l'impression que si l'autre le fait, pourquoi pas à moi aussi? Il y a beaucoup d'avantages à agir ensemble. Par exemple, cette grande réunion d'été, il n'aurait pas pu voir le jour si nous n'avions pas travaillé ensemble. Cela a demandé beaucoup d'efforts et un travail collectif. Cette ville de réunion a vu le jour ici. Et ensemble, nous pouvons accomplir de grandes choses. Parfois, la pression du groupe peut nous pousser à faire des choses qui ne sont pas bonnes pour nous. Est-ce qu'Ève s'est dit que si aussi Adam mangeait le fruit de ce même arbre, son propre péché serait peut-être atténué? Adam s'est-il dit, puisque Ève a enfreint la parole de Dieu, pourquoi pas moi? ou bien je n'ose pas refuser puisque Ève me le propose. Lorsque le péché a été révélé, Eva a accusé le serpent et Adam a accusé Ève. C'est là aussi quelque chose de bien familier et d'humain. Nous avons tendance à chercher facilement un coupable d'ailleurs. Pensez-y, Adam et Ève vivaient là-bas dans l'abondance du paradis. Ils pouvaient manger de tous les autres arbres, sauf de celui qui était interdit. Ils ont chuté. Mais Jésus, qui avait jeûné 40 jours et souffrait de la faim, a été tenté par la nourriture, mais Jésus a tenu bon et vaincu les tentations. L'être humain est toujours responsable de ses propres actes. Même Jésus, l'ennemi de l'âme, a tenté de l'entraîner sur cette voie de l'insouciante. On dit que sur le chemin de la vie, on peut dévier vers la droite ou vers le cochon. On peut dévier soit vers cette voie de la permissivité du péché, soit vers les sentiers de sa propre justice. L'ennemi de l'âme a tenté de piéger Jésus lui-même et de l'entraîner sur cette voie de l'indifférence lorsqu'il l'a amené là-haut sur le faîte du temple et lui dit: Si tu es vraiment le Fils de Dieu, jette-toi en bas. Il donne l'ordre à ses anges. Ils te portent sur les mains de peur que ton pied ne heurte une pierre. Pouvons-nous nous permettre une telle insouciance? Jésus ne vient-il pas nous exhorter à cela? Regardez les oiseaux du ciel et leur insouciance avant de s'adresser peut-être à des gens qui ne croyaient pas. Cela ne signifiait certainement pas qu'ils n'avaient pas de chagrin, mais peut-être justement qu'ils vivaient dans une insouciante mal placée. J'ai parfois donné des exemples de glace fragile. En effet, nous nous aventurons sciemment sur la glace fragile, nous nous mettons ainsi en danger et que nous ne devrions pas le faire. Ni dans la vie temporelle, en mettant sciemment en danger notre santé et notre corps, ni d'un point de vue spirituel. Nous ne devons pas nous exposer ni nous lancer dans les situations où nous courons de risques. Que pourrait signifier cette tentation à notre époque? Serait-il par exemple cette petite voix au téléphone qui murmure: Regarde, écoute, personne ne le voit. Ça n'a aucune importance. Personne ne doit le savoir. Sûrement, chacun d'entre nous, nous avons des tentations qui nous poussent vers le mal. Même si nous commettons des égards, chacun d'entre nous commet des péchés, nous ne devons pas pour autant chercher à les justifier. Parce que nous ne réussissons pas dans notre combat. Les conséquences du péché et son caractère ne disparaissent pas pour autant que nous essayons de nier et d'expliquer leur existence comme si elles n'existaient pas. Nous risquons de sombrer dans l'orgueil spirituel. Ou cette voie de notre propre justice, où nous fixons nos propres règles. C'est alors que la vie peut commencer à nous donner l'impression que si nous expliquons le péché de manière à qu'il soit plus facile d'y croire. Quand on a réussi dans la lutte, je suis capable de vivre selon ces règles. C'est alors comment la foi devient un simple respect des règles, une justification de soi-même. Nous essayons de mériter la grâce ou la vie éternelle en réussissant à mener une vie conforme à certaines règles. L'apôtre Jean a écrit que si nous prétendons d'avoir commis aucun péché, nous faisons de lui un menteur et sa parole n'est pas en nous. Jésus a répondu au tentateur. Il est également écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Nous ne pouvons donc pas nous la permettre. Nous ne devons pas emprunter la voie de la tolérance envers le péché. Ni celle de notre propre justice. L'ennemi de l'âme fit une fausse promesse, affirmant qu'il donnerait à Jésus tous les pays et toutes les nations. Il amena Jésus à une haute montagne et lui dit, je te donnerai tout cela si tu prosternes devant moi. L'ennemi de l'âme a menti à Ève, il a menti à Jésus et c'est ainsi qu'il nous ment aussi. Il fait des promesses sans fondement. Les promesses de l'ennemi de l'âme ne sont pourtant que du vin et qu'il promet une liberté qui en réalité n'est que l'égarement du péché. Il promet la joie, le plaisir et en fin de compte ne nous apporte que chagrin et détresse. Il promet une paix qui n'est pas la vraie paix. Et il nous donne l'insécurité. On avait promis à Ève qu'elle deviendrait semblable à Dieu. Aussi, nous pouvons avoir des tentations. Cette foi peut sembler si mal. Il y a peut-être aussi d'autres raisons comment nous pourrions nous adapter au monde ou pour les personnes qui vivent dans le péché. La réputation peut devenir un obstacle de la foi. La chute d'Adam et Ève est très humaine. Il nous est facile de nous y identifier. Nous avons nous-mêmes connu les doutes et les tentations. Et aussi notre foi est tentée et a mis à l'épreuve. Comme Adam et Ève, nous tombons aussi dans le péché. Je me suis parfois demandé si entre l'un entre nous aurait mieux. Un jour, les pharisiens amenèrent devant Jésus une femme surprise de l'adultère. Et comme on a dit, on peut jeter des pierres. Celui qui n'a pas de péché, il commence à jeter des pierres. Les pierres ont volé dans tous les saints. Il n'y avait pas de pierres volant. De nos jours, beaucoup pensent que le péché n'a plus aucune importance. Pourtant, la question du péché reste d'actualité, une question grave, tout aussi grave qu'auparavant. Paul a écrit aux Romains, le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Comme je l'ai dit aujourd'hui, quand on y réfléchit, le péché ne signifie plus grande chose. Il appartient peut-être à un monde révolu ou bien sa signification se réduit à des questions liées à la sexualité ou bien qu'aujourd'hui il puisse s'agir de choses tout à fait erronées que les gens ont substituées à ce concept de péché. Par exemple, les questions climatiques ou autre chose, ou les questions de la nature ou quelque chose qui est en valeur aux gens. Agir contre ces choses-là, c'est donc commettre ce péché. Quelque chose qui rompt des liens entre les hommes. C'est quelque chose qui rompt des liens entre Dieu et l'homme. Et comme l'a écrit Paul, le salaire du péché, c'est la mort. La gravité du péché n'a pas disparu. Cela ne signifie pas que si nous nous commettons au péché, alors immédiatement rencontrer la mort physique, mais cela signifie que le péché nous sépare de Dieu et la parole de Dieu. C'est la mort spirituelle. Le Dieu saint continue de haïr le péché de haine. Pour les hommes de notre époque, y compris moi-même, le rappel que Paul a adressé aux Galates convient parfaitement. Ne vous trompez pas, Dieu ne se laisse parailler. Ce que l'homme sème, ce qu'il récolte là. Même si Dieu haït le péché, il aime l'homme qui pêche. Il nous comprend. Il connaît nos faiblesses, tout comme l'ennemi de nos âmes les connaît. Il veut nous pardonner. L'auteur de l'Épître aux Hébreux écrit, « Notre grand prêtre, en effet, s'il en est incapable de nous comprendre, c'est bien notre grand prêtre, car il a été mis à l'épreuve en tout, tout comme nous le sommes. Mais il n'a pas péché. » C'est la différence essentielle entre Adam et Ève et Jésus. Jésus n'est pas tombé au péché. Même si l'ennemi de l'âme a tenté Jésus comme nous aussi. L'ennemi de l'âme a tenté de le égarer et de le faire chuter. Parfois, j'ai entendu dire que seule chose qu'on ne puisse vraiment pas reprocher à l'ennemi de l'âme, c'est qu'il soit extrêmement assidu. Il fait toujours son travail. Luc écrit que après avoir ainsi tenté de toutes sortes de manières, le diable le laissa en paix pendant un certain temps. Heureusement, notre Père céleste nous accorde de tels moments et nous pouvons ressentir que nous sommes en sécurité, en paix. On a l'impression que l'emprise de l'ennemi de l'âme s'éloigne peu à peu, pour un moment. Aussi, ici, dans la réunion, le diable trouve aussi son chemin ici. Et je me souviens bien que des fois, quand on est arrivé ici, nous avons eu des problèmes à mettre notre tente en calvaire. Mais cette fois, c'était plus facile. Il y avait des tentations et des chutes. Au début, j'ai mentionné la guerre contre les trois ennemis. Dans son chant, on chante que il y a le mal au monde, mais nous n'avons pas de guerre contre quelque autre personne, même si on nous attaque et nous haït ou on nous moque. Nous ne sommes pas en guerre contre ce genre de personnes. Plutôt, nous avons la mission de les traiter avec l'amour et montrer le royaume de paix. Nous ne faisons pas moins de péchés que les autres, qui est important à se souvenir. Nous avons la foi par la grâce, pas que nous soyons mieux que les autres. Nous ne pouvons pas être comme Jésus ou comme Jésus, ce que Jésus a fait pour nous. Ce n'est pas que nous évitons le péché, les tentations et les doutes, mais la foi se base sur ce fait que nous sommes les pécheurs et nous confessons que nous avons besoin de la grâce de Dieu pour nous sauver. De nos jours, l'humilité n'est pas vraiment très valorisée, mais l'humilité, tout comme le péché, appartient au monde d'autrefois. Pour un enfant de Dieu, cependant, l'humilité est toujours nécessaire. La Bible dit « Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il accorde sa grâce aux humbles. » Soumettez-vous donc à Dieu, mais résistez au diable, il cessera de vous tourmenter. Aujourd'hui, mes sœurs et mes frères, cette grâce est offerte à chacun qui fait le chemin du ciel et qui ressent que l'ennemi de l'âme a été près de vous et vous a séduit, vous a égaré et vous avez chuté. Alors cette grâce vous est due, venant tout droit du cœur du Père Céleste. La promesse que toi, tu peux croire en ce moment, tous tes péchés pardonnés au nom et au sang expiatoire de Jésus. Tu seras en sécurité et béni dans la foi. Ne crois pas le serment de l'ennemi de l'âme. Ses accusations et ses reproches ne te laissent pas abattre et tu es si peu croyant, tu n'en as pas la force. Le Sauveur est déjà vaincu le pouvoir de l'ennemi de l'âme. Nous pouvons croire et avoir confiance en cela, qu'il nous guide, nous soutient et nous mènera un jour à bon port. Au nom et au sang de Jésus, tu as le droit de croire tes péchés pardonnés. Chères sœurs et chers frères, soyez en sécurité. Nous avons un bon Dieu qui est prêt à nous donner son royaume et qui t'invite. Humilie-toi, toi aussi, dans ton cœur pour croire et avoir confiance. Les promesses de Dieu sont bien plus solides que celles de l'ennemi de l'âme qui repose sur le mensonge. Dieu donne ce qu'il promet. Il te promet à cet instant que il te pardonne les péchés au nom de Jésus.